Christian Benedetti, bonjour.
Bonjour.
La mise en scène de Supermarché que vous avez créée l'an dernier au Théâtre Studio d'Alfortville a été accueillie très favorablement en France comme en ex-Yougoslavie. Supermarché a obtenu le prix spécial de la mise en scène, celui du meilleur acteur et de la meilleure pièce au Festival international de Novi Sad en mai dernier en Serbie et Monténégro. Est-ce que votre formation personnelle et votre connaissance des formes théâtrales de l'Est ont joué un rôle important dans cette double réussite? Et quel est le sens que prend pour vous cette création, la lumière de votre connaissance de la réalité culturelle et politique des pays de l'Est?
Une longue question. Je pense probablement ma connaissance, enfin probablement, je n'en sais rien. C'est sûr que ça aide un peu de connaître ce dont on parle. Quand on connaît, c'est un peu comme parler de... des gens de sa famille, on en parle mieux que de gens qu'on ne connaît pas. Maintenant, c'est... Je crois que ça dépasse... Je crois que la pièce de Bidana, elle dépasse la situation géographique de l'Est. Comme tous les grands auteurs, elle a ce qu'on peut appeler une psyché publique. Donc, ça touche au-delà, ça interroge à la fois, évidemment, les gens de Serbie et Monténégro, mais aussi nous-mêmes, ça nous interroge sur notre capacité à nous souvenir de l'histoire, notre capacité à avancer, à construire quelque chose, à construire notre identité. Je crois que c'est là. S'il faut chercher une raison au succès rencontré, c'est, je crois, parce que c'est un auteur magnifique et que la pièce est une grande pièce. Je crois que c'est aussi simple que ça.
Bon, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Edouard Bond, avec lequel vous travaillez souvent et depuis longtemps, et Biljana Srbenović, justement, sont auteurs associés au Théâtre Studio. Mmh. Vous avez créé en France, il y a 2 ans, 4 ans, Psychose de Sarah Kane. Supermarché l'an dernier, de nombreuses pièces d'Edouard Bond. Pourquoi cette prédilection pour des auteurs contemporains?
Ce n'est pas une prédilection, c'est un... Je ne fais que ce que je pense être mon travail. C'est le minimum que de dialoguer avec des gens qui vivent en même temps que vous et qui parlent du monde dans lequel vous vivez et de proposer ça aux gens qui vivent aussi dans le même monde que nous pour essayer d'avoir une compréhension meilleure de nous-mêmes et du monde. Je crois que le théâtre est un outil dans le sens marxiste du terme. Ça doit être utile. Donc, pour ça, il faut avoir des outils, des instruments qui rendent plus aisée la compréhension du monde. Et à part, des variations infinies sur les formes, etc., ou des exercices de style, ou la joie de se montrer à soi-même qu'on est intelligent parce qu'on a compris la pièce, des variations sur les pièces classiques et du répertoire, quelquefois sont intéressantes parce que quand on arrive à montrer pourquoi et comment Molière est anarchiste, ou comment Racine est anarchiste, à quel endroit il est anarchiste, ça, d'accord, pour aussi montrer... à travers l'écart des ans, comment ces auteurs-là, comme Tchekhov, comme Racine, encore une fois, ou Molière, ont changé la compréhension du monde, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est malgré tout ceux qui ont changé la compréhension du monde aujourd'hui, à la fois la façon d'envisager le monde et la façon de le comprendre, et la façon de pouvoir se questionner. Donc voilà, je pense que c'est indispensable... Et c'est ces auteurs-là que je m'attache à monter. En même temps, c'est un cadeau magnifique que des gens comme Edouard Bond ou Biljana Srbenović m'aient fait l'amitié de, à la fois artistique et l'amitié personnelle d'accepter d'être associé au théâtre. C'est-à-dire qu'on va monter, que nous montons une pièce 2 par an et que dans le même temps, ils écrivent... plus particulièrement pour nous, pour l'équipe, pour le théâtre. Je trouve qu'il y a... Oui, c'est à la fois une chance et à la fois quelque chose que nous avons, que nous nous sommes créés. C'est vrai que c'est une chance parce que tout à coup, la façon de les mettre en scène a trouvé un écho dans leur travail qu'ils ont reconnu. Donc, je crois qu'on s'est... On a correspondu à cet endroit-là. Et de ce fait, on s'est associé parce qu'on s'est dit qu'on avait probablement les mêmes envies de dire et la même détermination à le faire. Mais je crois que c'est le minimum qu'on doit au théâtre. Comme c'est le minimum de créer aujourd'hui des nouveaux outils pour la représentation de ces dramaturgies. On vit encore sur le schéma du 19e siècle. On travaille avec des outils du 19e siècle. Alors chaque époque a construit des outils pour la dramaturgie de son temps. Pas nous. Nous, on continue dans ces outils qui sont en plus des outils qui correspondent au triomphe de la fiction. Et le théâtre que l'on fait n'est plus un théâtre de fiction. En tout cas, c'est une réflexion aussi sur la fiction. Ça n'est pas que de la fiction. Donc, ça pose des questions. Ça pose des questions sur ce qu'on n'arrive pas à nommer comme lieu émergent, nouveau territoire de l'art, lieu intermédiaire, etc. Chacun essaye d'y aller de sa définition, pensant qu'il va trouver un terme générique, comme on cherche un nom pour un médicament ou un produit de beauté. Simplement, je pense que moi, on devrait appeler ça des théâtres, puisqu'après tout, c'est jamais que ce que nous faisons. Et ça vient du mot grec théatron, le lieu d'où l'on regarde. Donc finalement, je pense que c'est bien des théâtres dont il s'agit. Maintenant, ça pose des questions, oui, des questions sur lesquelles il serait temps de réfléchir vraiment, que les pouvoirs publics ont du mal à mettre en perspective, mais des réflexions sur l'urbanisme, sur le postmodernisme, sur des enjeux de société, pourquoi ces lieux sont à la périphérie, ou alors exactement au centre des villes, pourquoi ce sont des lieux remplis d'une image, remplis d'une mémoire du travail et non pas une mémoire de fiction. Pourquoi, il y a plein de questions qui sont posées, que je crois qu'il faudrait que les artistes, enfin les metteurs en scène, se posent, parce que des opérateurs se posent ces questions, moins des metteurs en scène, qui restent encore souvent dans le schéma du formatage des spectacles pour les scènes nationales dans les années 70. Et ce qui fait qu'on comprend pourquoi les spectacles sont ceux que nous voyons la plupart du temps. Ça, cette forme-là, plus le choix du répertoire qui est monté, tout ça concorde vers une espèce de souvent en tout cas de vacuité qu'on voit sur les plateaux.
Alors vous venez de nous dire deux choses. Vous êtes membre cofondateur d'Autre Part, qui est un groupe de réflexion sur les friches et les nouvelles pratiques artistiques, ou les nouveaux territoires de l'art, comme ils ont été dernièrement appelés. On reviendra là-dessus. Mais par rapport à Supermarché, Supermarché est une critique sans concession de la Nouvelle Europe. Quelle est la portée fondamentale, selon vous, de ce texte, et pourquoi l'avez-vous choisi, tout particulièrement ?
C'est un texte qui parle du sens de l'histoire, à la fois la voie, le chemin et le sens. Or, aujourd'hui, on est dans une perte de sens et de mémoire. Si on avait de la mémoire, on n'aurait pas traversé le 21 avril. Comme dit Kundera, les événements historiques se répètent sans talent. Le 9 novembre, la date dont parle Biliana dans Supermarché, la date dont elle se sert comme ressort dramaturgique, c'est à la fois, bien sûr, le 9 novembre 89, d'abord, puisque c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, mais ensuite, le 9 novembre, par un hasard terrible, c'est aussi l'anniversaire de la nuit de cristal, c'est aussi l'anniversaire de la chute de l'Empire allemand après l'armistice de 1918. Le 9 novembre est une date comme ça, très étrange, qui revient étrangement dans l'histoire. Aujourd'hui, on se trouve face à quelque chose de très particulier. C'est que c'est vrai que si on demande à quelqu'un de 20 ans, c'est quoi pour toi la chute du mur de Berlin ? Eh bien, comme dans la pièce, la plupart répondent, il y avait un mur et il est tombé. Alors peut-être que dans 20 ans, on parlera de ce qui s'est passé le 11 septembre en disant il y avait deux tours et puis elles sont tombées. Mais ça raconte bien aussi la société dans laquelle on vit. Malheureusement, quelque chose ne s'est pas transmis de la mémoire. qui nous pose question. Sinon, il n'y aurait pas. Sinon, la petite fille de Mussolini n'aurait jamais été élue comme parlementaire italien. Berlusconi ne serait pas au pouvoir. Haider n'aurait pas été élu. Beaucoup de choses n'auraient pas eu lieu. Or, nous nous retrouvons face à un bégaiement de l'histoire. Ce n'est pas un signe de bonne santé si aujourd'hui certains se sentent obligés de remonter la résistible ascension d'Arturo Uy, par exemple. Ça veut dire qu'on a bégayé pendant 50 ans. Et aujourd'hui, les pays de l'ancien bloc de l'Est, dont la vie était complètement intimement liée à l'histoire, puisqu'il n'y a pas une famille où, si on parle du jour où la Macédoine a revendiqué son indépendance, quelqu'un dit « Ah ben oui, c'est là où mon grand-père est venu s'installer à Sarajevo, par exemple ». Aujourd'hui, cette jeunesse nous regarde comme un supermarché, avec gourmandise et envie, pensant que, évidemment, oui, on trouve tout, c'est formidable. Et en même temps, étant fasciné par ce qu'il regarde, par ce qu'elle regarde, cette jeunesse devient ce qu'elle regarde, et donc tombe aussi dans ce trou de mémoire, parce que l'important, c'est d'être dans l'écart qu'il y a entre le cul et le fric, c'est-à-dire le commerce, parce qu'il faut gagner du fric, puisque la problématique, elle est là. Donc voilà, elle dit ça. Alors, ça peut sembler simpliste, je crois que c'est au cœur même aujourd'hui de ce qui touche tout le questionnement de des sociétés dans lesquelles nous essayons de vivre, d'autant qu'on est en train d'élargir l'Europe à 25. Notre histoire, l'histoire future, va venir de ces pays-là. Il faut qu'on soit très vigilant. Les Serbes se trouvent dans une situation de non-droit à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu 3 élections présidentielles avec moins de 50% des votants. Donc, le président ne pouvait pas être élu constitutionnellement. Mais, comme le président par intérim a dissous l'Assemblée nationale, pensant qu'il allait être élu, il ne peut pas convoquer une nouvelle élection présidentielle avant le 28 janvier. Les Croates viennent d'élire l'équivalent d'un Le Pen à leur tête, un ultranationaliste. Ça se passe encore aujourd'hui, ça se passe dans les Balkans. Je me dis, faut-il rappeler que la Première Guerre mondiale a commencé parce qu'on a assassiné l'archiduc à Sarajevo. Bon, je sais pas, c'est pas agréable de penser ça. Alors la pièce, évidemment, la pièce est drôle, la pièce est drôle, non, moi je la trouve pas drôle, parce que cet homme face aux autres qui représentent la machine totalitaire, finalement, une machine totalitaire qui empêche l'histoire d'avancer, donc lui qui l'empêche d'affirmer son identité, c'est une tragédie. Et que la seule façon de trouver son identité, c'est de mentir. Et de se mentir à soi-même d'abord, et puis de mentir aux autres, parce qu'en même temps, la vérité est insupportable, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on a collaboré. Si on est de ces anciens pays de l'Est, on ne peut pas se dire qu'on a collaboré jusqu'à temps que ces régimes disparaissent, parce qu'il fallait bien survivre. Alors on dit non, non, bien sûr, nous étions contre, donc on se refait une virginité, mais en même temps, on rement sur le mensonge. Donc évidemment, on efface la mémoire à grands coups de brosse à eau. On est dans une espèce d'étourdissement qui fait que, oh mon Dieu, je ne me suis pas souvenu, c'est pas grave, j'ai oublié. L'oubli est la pire des maladies, je crois. Enfin, en tout cas, une des pires maladies qu'on puisse connaître. Donc voilà, je crois que comme le dit Édouard, hein, il dit deux choses qui sont valables pour cette pièce, évidemment, qui font partie. C'est vraiment notre histoire. Il dit, nous devrions avoir peur du futur, nous y sommes déjà allés. Je crois que ça raconte aussi ça. Et puis, il dit aussi, toutes les révolutions sont inscrites au dos des calendriers. Et je crois que, oui, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est très simple. Les révolutions sont inscrites au dos des calendriers. Il suffit de retourner le calendrier pour le lire. Voilà, ça fait partie de toutes ces raisons qui font que à la fois Biljana est associée à nous comme auteur et qu'en même temps sa pièce est, me semble-t-il, essentielle aujourd'hui pour nous permettre de comprendre mieux la cartographie du monde. Parce qu'elle a cette écriture radicale et politique, c'est quelqu'un d'une exigence énorme, qui ne fait pas de concessions. Et c'est une femme, je crois qu'on a besoin de ça, et que c'est intéressant de voir comment avec Bond on apprend des choses sur l'humanité, comment avec Biljana on apprend des choses sur la société, et comment avec Sarah Kane on apprend des choses sur la nécessité de l'humanité à travers la société. Ces trois auteurs qui s'entremêlent d'une certaine façon, bien que Biljana et Sarah Kane ne soient absolument pas de même nature, parce que certains les ont comparés, c'est une connerie totale, ça n'a aucun sens de les comparer, si ce n'est que ce sont des femmes, et les deux, en tout cas Sarah Kane quand elle était vivante était une femme formidable, et Biljana qui est elle très vivante est une femme formidable. Voilà, de façon confuse ce que je peux dire là aujourd'hui tout de suite là.
Vous venez de nous parler d'un des rapports entre votre nécessité artistique et l'action politique. Bien sûr, on est quand même tenté de vous demander s'il y a quelque chose qui vous touche et vous intéresse particulièrement dans l'écriture de ces deux auteurs, Sarah Kane et Biljana Srbjanović, qui sont deux dramaturges féminines et de la même génération, avec une écriture complètement différente et particulière pour chacune. Donc, en dehors de ces questions-là, pensez-vous qu'il y a une forme scénique spécifique qui permette d'élucider le sens de ces pièces contemporaines ? Et est-ce que, à écriture renouvelée, à époque en crise, il faut de nouvelles formes théâtrales pour toucher plus précisément le public, ou en tout cas rentrer en relation avec lui de manière nouvelle ?
Ce qui me touche dans l'écriture de Biljana et de Sarah Kane, ce sont des auteurs qui sont face à l'implacable. C'est des auteurs de... Il y a deux sortes d'auteurs. Il y a ceux qui racontent des anecdotes et puis ceux qui s'affrontent à l'implacable. Et c'est des auteurs de la deuxième sorte. Elles ne sortent pas indemnes. On voit bien d'ailleurs que Sarah Kane est allée à la limite de ses forces et de la supportabilité. Alors en même temps, c'est vrai que, bon, ça c'est la chose qui me frappe et que je dis souvent, et je crois qu'à part Bond comme figure, je dirais plus classique et puis paternelle en quelque sorte, c'est la parole des femmes aujourd'hui qui est importante, en tout cas dans la dramaturgie, c'est elle qui nous montre la cartographie du monde. Dea Loher en Allemagne, Biljana, Sarah Kane, elles sont toutes de la même génération. C'est aussi une question sur laquelle il faut réfléchir, je crois que ça me semble important. Moi je me suis fait cette réflexion-là, je trouve que le théâtre des hommes est plus constatatif, plus un théâtre de symptômes, peut-être à part Lars Noren et Lionel Spischer, peut-être. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Lionel, tu écris comme une femme, avec une radicalité comme ça. Bien qu'on a... L'approche est complètement différente, bien sûr. Mais sinon, bien sûr, il faut, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut d'autres lieux adaptés, qui permettent à ces dramaturgies de trouver leur place. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que moi j'essaie de faire à Alfortville en ayant construit cet instrument de travail. Je crois que tout metteur en scène devrait à la fois pour faire son travail, je crois que chaque metteur en scène a besoin d'un outil, de son outil à lui évidemment. C'est-à-dire que Van Gogh il peint avec du matériel qui n'est pas forcément le même que celui qu'utilise Jackson Pollock ou que est utilisé Edouard Munch ou d'autres. Je crois que y a chacun doit créer l'outil qui correspond le plus justement à la parole qu'il veut prendre. Je crois que ça devrait être aussi une préoccupation des metteurs en scène, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et ce qui fait que peut-être les choses, du coup, sont plus difficiles à transmettre quand on utilise les outils des autres. Ou des outils qui ne sont pas adaptés. Mais voilà, je pense qu'il faut, c'est aussi d'ailleurs de façon alors beaucoup plus radicale ce qui s'est passé en Roumanie quand je suis allé y travailler et monter des pièces de Sarah Kane avec des acteurs roumains, où évidemment ça a posé des questions, d'abord un nouveau répertoire, les lieux ne correspondaient pas aux pièces qui étaient répétées, donc il a fallu trouver d'autres lieux, d'autres formes, et puis aussi de se poser des questions de pourquoi, pour qui, comment on faisait du théâtre. Donc du coup, mais tout ça s'est passé très vite et d'une façon beaucoup plus radicale parce que c'était dans l'urgence et dans une évidence. En plus, un pays avec une tradition théâtrale où les gens font ça parce que ça existe et parce que c'est normal d'être acteur. Être acteur, c'est comme être médecin. Là-bas, il n'y a pas, ici, encore quelquefois, parfois, un côté un peu aventureux. Là-bas, non, c'est loin d'être une aventure. Ça fait partie des possibilités des métiers, et si on a les capacités pour l'exercer, eh bien pourquoi pas. Et on s'est posé ces questions-là, et on a trouvé, ça m'a intéressé beaucoup, parce que j'ai posé ces questions, on a trouvé des réponses, et aujourd'hui, eh bien, j'ai pris la tête, la direction, de façon virtuelle, mais de façon très concrète, la tête d'un groupe qui s'appelle le groupe 05, le GAT 05, groupe d'action artistique 05, parce que le noyau d'acteurs est de 5 pour l'instant, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui nous ont demandé de nous rejoindre. Et on va aller à Târgu-Ocna, qui est une municipalité à 300 km de Bucarest, qui nous donne la maison de la culture comme base et comme outil à transformer et à adapter à nos souhaits. Et en même temps, comme la Roumanie est un pays en friche, ça, alors là, il y a, je dirais, peut-être un endroit absolument radicalement idéal pour les dramaturgies contemporaines, parce que ça raconte aussi, d'une certaine façon, la dévastation de notre monde. Et voilà, c'est le travail qu'on y mène en ce moment. Donc voilà, il y a des liens partout, quoi, entre la Roumanie, la Serbie, ils ont une frontière commune, ça se jouxte. Les Serbes étant quand même plus près en heure de vol, mais ne sont pas dans l'espace de Schengen, ça aussi, c'est fait partie des questionnements historiques, je ne sais pas, sur lesquels il faudrait... On peut juste se pencher comme ça, juste s'arrêter une seconde. Voilà.
Pour revenir en France, et une dernière question, rapidement, vous avez créé votre outil de travail, le théâtre studio à Alfortville, dans une ancienne friche, un ancien entrepôt à vin. Très récemment, la presse, les médias se sont fait écho de vos difficultés. On sait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que vous êtes cofondateur d'un groupe de réflexion sur les friches et nouvelles pratiques artistiques, autre part. Voilà, donc les deux questions sont simples. Où en êtes-vous de la situation du théâtre studio concrètement? Et l'autre question, où en êtes-vous aussi du dialogue avec les tutelles ou pouvoirs publics sur ces nouveaux territoires, justement?
Sur le théâtre studio, ça va un peu mieux, parce que je crois que nos interlocuteurs ont entendu ce qu'on disait et ont compris que ça valait peut-être le coup de nous aider, qu'il y avait peut-être là un enjeu. Je crois qu'ils ont commencé à entendre que je leur demandais d'être des partenaires et pas seulement des tirelires ou simplement des gens sans aucune identité. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est quel est le... Mon travail étant sur le sens, c'est aussi le sens de l'argent qu'il donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi C'est pas juste donner de l'argent. Et en même temps, comment dire, délibérément se positionner contre cette idée que la précarité financière est source de créativité. Et ça, c'est une infamie, ça, de penser que plus on est dans la merde, mieux on crée. Par contre, qu'il faille une nécessité, bien sûr, il faut une nécessité de créer, mais qui n'appartient qu'à ceux qui font. Mais je sais pas, je peux témoigner que ce n'est pas demain, parce qu'on affamera Edouard Bond, qu'il écrira mieux, quoi. Donc voilà, je crois que nous on va un peu mieux. La réflexion sur les nouveaux territoires de l'art, comme dit le ministère, elle est au point mort, parce que je crois qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'enjeu, ils n'ont pas compris l'enjeu de société, que ce soit les ministres précédents, à part Michel Dufour, qui a senti quelque chose. Il a compris qu'il y avait là quelque chose d'important qui se dessinait. Il n'avait pas les moyens, même s'il avait un strapontin, pas de budget, une ministre qui, en face de lui, faisait plutôt du blocage qu'autre chose, puisqu'elle pensait qu'on était à la limite de la légalité, en nous subventionnant quand même, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. En même temps, alors là, en ce moment, c'est pire, parce que effectivement, on les considérait comme des pouilleux, des pauvres, et aujourd'hui, puisque c'est la guerre aux pauvres, évidemment, les pauvres doivent disparaître, parce que c'est sale, les pauvres, ça fait des saletés, ça pose des questions, voilà. Donc, c'est un enjeu véritable de société, c'est une question qui est très... J'ai l'air de dire ça de façon fataliste et un peu désabusée. Désabusée, oui, parce que je suis fatigué probablement aujourd'hui, mais je crois qu'ils doivent... Un pays qui ne prend pas soin de son théâtre et qui n'écoute pas son théâtre, qui n'écoute pas les gens qui le font, et qui ne prend pas soin qui ne s'occupe pas des enfants, d'un autre côté, a les plus grandes craintes à avoir quant à sa capacité démocratique. Et bon, aujourd'hui, moi, j'ai des craintes sur la capacité démocratique de la France. Je trouve qu'on vit plutôt dans une organisation que d'une société, une organisation. Les singes suffisent, les singes sont très organisés, il y a les chefs, tout va très bien, quoi. Voilà, mais j'ai plus cette sensation-là, avec une sensation d'un retour, d'une espèce d'obscurantisme comme ça. J'ai l'impression qu'on est presque au temps de Galilée. Voilà, à nous de ne pas dire « et pourtant elle tourne », mais d'affirmer, de continuer d'affirmer, d'être plutôt comme Giordano Bruno qui peut-être en est mort, mais au moins n'a pas abjuré.
Christian Benedetti, merci.
Merci à vous.